Nous y voilà, autour de Philippe Quentin, de s'amener aux amateurs de sport. Bon vendredi soir, Philippe.
Salut, Mario.
Ah, je savais que ça t'intéresserait, cette nouvelle publiée par Jérémy Filosa aujourd'hui. Ça nous intéresse tous, là. Jérémy qui nous dit que le temps presse du côté de Tampa Bay, que Montréal se prépare à toutes sortes de scénarios, dont peut-être le plus gros des scénarios, dit-il.
Oui, ben c'est une nouvelle très intéressante que Jérémy a publiée et a racontée aujourd'hui en onde. Alors, d'abord, cette question du stade des Rays de Tampa Bay, où on doit trouver le financement avant la fin de l'année, avant le 31 décembre, pour des raisons contractuelles. Sinon, ben ça complique beaucoup, beaucoup le dossier là-bas. Mais tu sais, quand on regarde avec un peu de perspective historique, Mario, ce qui s'est passé dans l'histoire de construction de nouveaux stades dans plusieurs villes, avec ce fameux concept de la date butoir.
Ça change.
Ben, ouais, il faut qu'on soit prudent. Je me souviens notamment ici à Montréal, là, quand on a parlé d'un nouveau stade des Expos au centre-ville, il me semble que les dates butoirs, c'était une après l'autre. Il y avait une date butoir le 30 juin, puis finalement, elle était repoussée au 30 octobre. Puis, tu sais, il y a des dates butoirs, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est mis, la date est mise dans le contrat. Elle fait partie d'un contrat. Mais on sait bien que quand on négocie une entente financière d'une aussi grande ampleur. Parce que là, à Tampa, là, le stade dont on parle, donc on veut construire pour remplacer le Tropicana Field, c'est une facture de 900 millions de dollars. Alors, c'est sûr qu'un projet comme celui-là, ficeler les tenants et aboutissants de tout ça, c'est extrêmement complexe et ça peut prendre du temps. Alors, la date butoir, moi, je pense que ce qu'on veut faire, notamment, c'est certainement mettre de la pression sur tous les intervenants, notamment les autorités publiques, parce que ce sont elles qui sont interpellées parce que ça va être construit d'abord et avant tout avec des fonds publics si jamais ça se fait à Tampa Bay. Donc, on veut mettre de la pression. C'est normal, c'est de bonne guerre, mais si jamais il y avait un développement positif quelques jours avant Noël, puis que tout n'est pas ficelé le 31 décembre, là, je pense bien qu'ils vont continuer à négocier en janvier et peut-être même plus tard. Alors ça, je pense que c'est important quand même, mais ça illustre à quel point la situation est rendue délicate à Tampa. Parce que là, on forme même des comités de soutien au projet du nouveau stade. On a annoncé aujourd'hui que d'autres personnes connues à Tampa Bay, dans tous les milieux, le milieu légal, le milieu du sport, donc des nouveaux porte-parole pour essayer de convaincre les gens d'embarquer dans ce projet-là. Mais quand tu es à moins à peine plus d'un mois de la date butoir, puisqu'elle existe quand même, là, et que tu es obligé, encore une fois, de créer des comités de soutien puis de renforcer ta campagne de pub puis de promotion, c'est signe, Mario, que ça va pas très bien.
Non, vraiment
c'est signe
pas.
Que tu n'es vraiment pas le au fil d'arrivée. Alors, donc, situation, comme le rapportait Jérémy avec beaucoup d'à-propos, extrêmement délicate à Tampa.
Peux-tu t'imaginer qu'on pourrait avoir donc une équipe des ligues majeures prochainement avec un propriétaire peut-être en partenariat avec les actionnaires d'ici? Ça voudrait dire également d'amorcer ou d'annoncer la construction d'un nouveau stade, même si le stade olympique peut servir temporairement, parce que Rob Manfred l'a toujours dit, il semble y tenir mordicus. Il n'y a jamais d'annonce qui va se faire en direction de Montréal si on n'a pas annoncé ou même, je pense, entrepris la construction d'un nouveau stade.
Oui, bien, peut-être pas. Je pense pas qu'il exige que le chantier soit ouvert avec le bulldozer qui commence à creuser le trou. Là.
Non, c'est ça que Jérémy disait, dans le même sens que toi.
Oui, c'est ça.
Mais il ne faudrait pas que ça parte bien longtemps après.
Non, c'est ça. Il faudrait que tout soit attaché au niveau du financement. C'est-à-dire que ça ne soit pas simplement un projet. Mais c'est clair que là, au niveau du baseball majeur, le commissaire Rob Manfred, là, il doit commencer à être un peu fatigué de la situation à Tampa Bay. Ça fait 10 ans qu'on parle d'un nouveau stade à Tampa. Je disais aujourd'hui là, les dates clés dans ce dossier-là sur le site web d'un quotidien de Tampa. Et le débat commence en 2008. Alors, il y a des événements, des nouveaux épisodes depuis 2008. Alors, tout à coup, il faut que ça aboutisse. Là. On ne peut pas endurer ça éternellement au baseball majeur. Et il y a une solution, un plan B avec Montréal. Mais à Montréal aussi, il reste du travail à faire. Alors, le scénario que tu évoquais, c'est sûr que ça serait le meilleur scénario, Mario. Le scénario où le propriétaire des Rays de Tampa Bay accepterait de déménager son équipe et de la transférer et de venir à Montréal en demeurant propriétaire majoritaire et se grefferait au groupe des investisseurs minoritaires locaux, québécois, canadiens. Ça serait un très bon scénario parce que sans ça, la facture risque d'être énorme.
Énorme. Jérémy évoque également, pour clore la discussion sur ce dossier-là, la possibilité que les Rays viennent disputer des matchs de saison régulière dès 2020, possiblement contre les Blue Jays de Toronto. Ce que n'a jamais jamais voulu faire jusqu'ici le propriétaire des Rays parce que je pense qu'il voulait être de bonne foi totalement dans sa démarche pour garder l'équipe là-bas.
Oui. Puis c'est ça, Jérémy ajoute un élément d'information intéressant là, que dans le contrat des Rays avec le truck, les gestionnaires du Tropicana Field, ils ont le droit depuis 2018 de disputer un certain nombre de matchs hors marché. Mais moi, tu sais, autant je souhaite avoir du baseball majeur à Montréal, je suis pas convaincu que de voir une équipe débarquer ici pour jouer, disons, deux séries de trois matchs au Stade Olympique. Peut-être que ce sera un grand succès, mais je trouve qu'il y a un piège là-dedans. Puis le piège, c'est le suivant, c'est que si pour toutes sortes de raisons, ça ne fonctionne pas trop, parce que les Rays, bon, et les gens les connaissent moins, ils décident de moins y aller, que les matchs ont lieu en semaine, ou que c'est pendant un match éliminatoire du Canadien qui est important, puis que les foules sont décevantes, tu sais, j'ai l'impression que ça pourrait faire peut-être un peu de tort à la candidature, parce que c'est pas la même chose. Aller applaudir une équipe que tu connais pas, puis tu sais qu'il va jouer trois matchs, peut-être six matchs, puis que dans le fond, tout ça est fait pour mettre un petit peu de pression au niveau local, parce que rien est finalement attaché dans l'avenir de cette concession-là. C'est pas la même chose que de dire, hey, là, vous avez une équipe, puis ils s'appellent plus les Rays de Tampa, mais ils s'appellent les Expos de Montréal. Ça serait complètement différent. Alors, moi, je suis quand même un peu prudent avec ça. Oui, ça pourrait être intéressant, mais je suis pas convaincu à 100% que ça serait une initiative qui viendrait apporter une marque là, importante de l'appui des Montréalais au baseball majeur.
Un autre dossier qui a fait beaucoup jaser depuis des semaines, particulièrement cette semaine avec le résultat du référendum à Calgary, la population contre la possibilité de recevoir ou contre la candidature de leur ville pour les Jeux d'hiver 2026. Le mouvement olympique, tu le constates, Philippe, là, a une méchante côte à remonter quant à sa crédibilité auprès des populations.
Mario, c'est énorme. J'ai écrit une chronique dans la presse cette semaine sur le résultat du vote à Calgary. J'ai obtenu de beaucoup de réactions de mes lecteurs et c'était unanime, vraiment unanime. Les gens disaient, ben, tu sais, je vais paraphraser et résumer un peu, là, mais les gens disaient, tu sais, ils ne méritent que ça, le Comité international olympique. On voit que la crédibilité de cette organisation-là est sérieusement mise en cause. Et moi, je me demande jusqu'à quel point ils en sont pleinement conscient. C'est sûr qu'ils voient les résultats des référendums négatifs qui déboulent l'un après l'autre. Mais au niveau de leur approche, de la façon dont ils gèrent leur image de marque et dans de nombreux dossiers, tu te demandes si ils en sont véritablement conscients de cette dégringolade de leur marque. Mais j'ai l'impression que ce qui fausse peut-être un peu les données puis qui donne peut-être un faux sentiment de sécurité au Comité international olympique, c'est que pour les Jeux d'été, l'orage ne les a pas éclaboussés.
Il reste des clients, c'est comme pour les Grands Prix de Formule 1. Il y a encore des pays qui veulent les accueillir puis sortir les gros dollars. Mm-hmm. C'est vrai pour les Jeux d'été, tu as raison de souligner, Philippe.
Ouais, et c'est important parce que là, c'est pas n'importe quelle ville là, qui a obtenu les Jeux olympiques de 2024 et de 2028. Au moment où on dit que dans les démocraties occidentales, les gens, quand ils sont invités à se prononcer par référendum sur l'opportunité d'accueillir ou non les Jeux d'hiver, disent non, et ça a été des non partout, au niveau des Jeux d'été, ben ça a été un oui. Il n'y a pas eu de référendum et ils n'en ont même pas réclamé. Et là, je parle de deux des plus grandes villes dans le monde, Paris 2024, donc Paris qui a obtenu les Jeux de 2024 pour le Comité international olympique. C'est une réussite extraordinaire de voir qu'une ville aussi resplendissante, aussi importante dans un pays qui aime autant le sport que la France soit là pour organiser les Jeux olympiques. Et du coup, on a réglé la question de 2028 aussi avec Los Angeles qui voulait les Jeux de 2024, mais finalement qui a accepté d'organiser ceux de 2028. Alors là, on a deux énormes métropoles, deux villes prestigieuses qui ont déjà pris l'engagement d'organiser des Jeux olympiques en 2024 et 2028. Alors, si tu te mets dans la peau du Comité international olympique, tu te dis, coudonc, mon image de marque, est-ce qu'elle est si terrible que ça, puisque j'ai réussi à attirer Paris et Los Angeles, puis que même elles se battaient, ces deux villes-là, pour avoir les Jeux de 2024. Ça doit pas être si pire que ça. Mais là, d'un autre côté, tu regardes les Jeux d'hiver, hey, les villes disent donc, une après l'autre,
Davos, Saint-Maurice, villes, ce ne sont pas des villes de même taille, si tu me permets peut-être d'ajouter dans l'échange, Philippe. Ouais. Tu sais, les marchés, quand tu regardes là où il y a de la neige, là, c'est pas des méga marchés tout le temps. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la norme. Là. C'est pas,
non, puis j'ai l'impression, Mario, pas j'ai l'impression, j'ai la conviction que, tu sais, quand on pense aux Jeux d'hiver, on pense au dérapage terrible des Jeux de Sochi en 2014. Dérapage qui est survenu à deux niveaux. D'abord, les coûts, la facture, 50 milliards de dollars pour des Jeux olympiques. Ça frappe l'imaginaire. C'est sûr. Et bien sûr, le scandale de dopage. Alors donc, la marque des Jeux d'hiver à l'intérieur de la marque olympique, cette sous-marque des jeux d'hiver, ça, à l'intérieur de la grande marque, elle est considérablement affaiblie.
Philippe, sur ce, c'est le temps de te dire merci et de te dire à la semaine prochaine avec peut-être un autre 2 points pour le CH demain. On va voir.
Voilà, on va surveiller ça avec intérêt.
Carey a retrouvé ses repères. On espère que ça va durer.
Oui.
Salut Philippe.
Salut Mario.
Merci beaucoup. Et on va revenir dans le détail sur ce match-là d'hier avec une belle performance de Carey Price qui a volé le match selon Benoît Brunet qui est avec nous dans quelques instants.